Vous savez, la mode n'est pas une dictature, c'est une proposition.
Ils font de leur façon de s'habiller un jeu.
C'est très pratique, très confortable.
Allure négligée ou soignée?
Ah non, plutôt négligée.
Vous voulez signifier aux autres que vous vous prenez trop au sérieux pour vous intéresser aux vêtements que vous devez mettre.
La couleur m'inspire pas, c'est pas top au niveau de la forme.
Vous portez tous les deux des vestes de cuir noir, pour quelle raison?
Ah, parce que c'est la mode.
Vous portez un vêtement qui a été choisi pour vous par les personnes qui se trouvent dans ce bureau.
Déshabillez-vous. Radio Campus Paris.
Vous savez, la mode, c'est pas complètement inutile.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce second épisode de Déshabillez-vous. Je suis votre hôte, Claire Le Gourielec, et ici on parle donc de vêtements. Cette émission a pour vocation de s'intéresser à tout ce que peut le vêtement, ce qu'il a de poétique et ce qu'il a de puissant. Mais aussi si le vêtement en lui-même, la façon dont il célèbre notre identité, si tout cela est beau, et bien force est de constater que le vêtement porte aussi en lui une certaine laideur, une certaine mocheté. Le vêtement n'est pas toujours beau, et je ne parle pas d'association de couleurs ratées ou de matériaux qui grattent, non, je parle de la façon dont il est produit, la façon dont nous le produisons, nous aujourd'hui, maintenant, en 2020, et ce depuis quelques années déjà. Comme pour toute chose, la chaîne de production est importante et elle est interconnectée avec le reste du monde. Il faut en parler. C'est important, et c'est précisément ce qu'on va faire aujourd'hui avec mes deux invités, Diane Davoine et Léna Kinkyo. Alors la profonde transformation qu'a subie l'industrie du vêtement nous pose aujourd'hui de nombreuses questions, des questions auxquelles on essaye tous et toutes de répondre. Pour vous et moi, les consommateurs, cela passe peut-être par l'achat de seconde main. À l'échelle nationale, des lois sur l'encadrement du travail sont passées, mais pas partout et pas de façon égale. On vit à une époque où la très grande majorité des vêtements qu'on porte sont issus d'un vaste système appelé fast fashion, l'équivalent vestimentaire de la fast food, prix peu élevé, espérance de vie tout aussi basse, taux de déchets immense. Les principaux bénéficiaires de cette industrie sont les actionnaires qui s'enrichissent à mesure que les éléments les plus faibles de la chaîne de production, eux, s'appauvrissent.
For them it's a win-win-win-win-win, as for nature and people it's a lose-lose-lose-lose-lose.
La production, autrefois basée sur le territoire des consommateurs, a été délocalisée en masse jusque dans les années 60. 95% des vêtements portés par les Américains, par exemple, étaient encore confectionnés sur leur territoire. En 2015, ce chiffre est tombé à 3%. C'est un système basé sur l'exploitation écologique, et celle-ci ne profite qu'à une poignée de gens, mais pas forcément nous, les consommateurs, car nous ne sommes pas non plus dans une position particulièrement réjouissante, bien que, évidemment, infiniment meilleure que celles et ceux qui sont les éléments vulnérables de la chaîne de production. En 2014, on note par exemple que les consommateurs ont acheté 60% de vêtements de plus qu'en 2000, les gardant deux fois moins longtemps. Aux États-Unis, en moyenne, un vêtement est acheté par personne tous les 5 jours et demi. Le cycle de vie d'un vêtement non gardé finit souvent en décharge, à Haïti par exemple, où l'artisanat vestimentaire a été complètement éradiqué par l'arrivée de tonnes d'invendus ou de rejets. Et ce n'est pas seulement l'apanage des consommateurs, non, afin de maintenir leurs prix élevés, la célèbre marque par exemple de prêt-à-porter britannique Burberry a détruit l'équivalent de 110 millions de dollars d'invendus entre 2013 et 2018, plutôt que de les vendre à rabais et de dévaloriser ainsi l'image de la marque. Et n'oublions pas évidemment que nous occupons tous la même terre, une terre qui subit chaque jour un peu plus de dégradation, causée entre autres par les mauvaises pratiques de l'industrie du vêtement, encore en plein essor, qui produit chaque année des milliards de vêtements, émet plus d'un milliard de gaz à effet de serre, et est la seconde industrie la plus polluante au monde. Mais c'est aussi une industrie qui semble devoir se plier de plus en plus à la volonté de celles et ceux qui œuvrent pour son amélioration, pour des changements dans la production, dans la consommation. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être en compagnie de deux de ces personnes, Léna Kinkyo et Diane Davoine.
Déshabillez-vous. Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes les deux déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment allez-vous ?
Bonjour Claire, ça va très bien, merci.
Bonjour Claire, moi aussi ça va très bien, merci.
Alors est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs, qui êtes-vous et quel est votre lien avec l'industrie du vêtement, Léna par exemple ?
Oui, alors je suis analyste climat à l'International Finance Corporation, donc IFC en anglais, qui peut se traduire par Société Financière Internationale en français, qui est une institution d'aide au développement consacrée au secteur privé et qui fait partie du groupe Banque Mondiale. Et donc, plus précisément, je travaille sur le financement de projets dans les secteurs de l'agriculture et de l'industrie, notamment donc l'industrie textile, Et en un mot, le travail de mon équipe va consister à minimiser les impacts négatifs sur l'environnement et ou à maximiser les impacts positifs selon les projets.
Ok, super. Et Diane, de ton côté ?
Oui, alors merci de nous recevoir, Claire. Moi, je travaille également à l'IFC, où je gère des projets qui visent à améliorer les conditions de travail et la compétitivité dans la filière textile dans les pays en développement. Et je fais cela principalement dans le cadre d'un programme qui s'appelle Better Work, qui est en partenariat entre l'IFC et l'Organisation internationale du travail.
Alors, quand on évoque l'industrie du vêtement, c'est vaste. De quoi parle-t-on vraiment ?
Alors oui, en effet, c'est très vaste et je pense que chacun perçoit cette industrie et sa complexité de façon différente. Une chose qui est importante, c'est de considérer la chaîne de valeur dans son ensemble, c'est-à-dire toutes les étapes de production et les différents acteurs. Donc ici, la première étape, c'est la production de fibres. Les fibres naturelles incluent le coton, la soie, la laine et le lin. Et ces fibres viennent directement de l'agriculture ou de l'élevage. Et il y a également des fibres synthétiques, comme par exemple le polyester ou l'acrylique, mais là, ce sont des autres procédés de production. Ensuite, la deuxième étape, c'est la filature, et donc c'est là que les fibres sont transformées en fil. La troisième étape, c'est la fabrication du tissu. Donc les fils sont soit tissés, soit tricotés, pour former des panneaux en tissu. Et cette étape inclut aussi le traitement des textiles, comme les teintures et les impressions. Et puis la quatrième étape, c'est celle souvent dont on parle le plus quand on parle de l'industrie du vêtement, c'est ce qu'on appelle la confection ou aussi l'assemblage. Et c'est là que les différents panneaux de tissu sont cousus ensemble pour former le vêtement. Et c'est là aussi qu'on ajoute les boutons, les zips, etc. Et puis la cinquième étape, c'est la distribution. Et puis en dernier, étant donné qu'on parle de plus en plus d'économie circulaire, il faut considérer les étapes d'utilisation des vêtements, du fin du cycle de vie, ainsi que le recyclage et la réutilisation de ces composants. Et c'est important d'être conscient de ces différentes étapes, tout particulièrement lorsqu'on parle des questions sociales et environnementales, car en fait les acteurs, les lieux de production et les procédés varient beaucoup d'une étape à l'autre. Par exemple, pour l'étape de la confection, il faut savoir que les marques d'habits, dans l'immense majorité des cas, ne possèdent pas d'usine. Mais en fait, les marques d'habits travaillent toutes avec plusieurs usines qu'elles choisissent comme fournisseurs. Et vu que c'est une étape de production qui demande beaucoup de main-d'œuvre pour des tâches relativement simples, les usines de confection sont principalement établies dans des pays où le coût du travail est relativement bas. Par opposition, l'étape précédente, qui est la fabrication du textile, donc le tissage, le tricotage, la teinture, là, ce sont des procédés qui demandent principalement des machines et qui sont gourmands en eau et en électricité et qui utilisent aussi des produits chimiques. Donc là, tout de suite, on voit que même si on parle d'une chaîne de valeur, il y a plusieurs étapes qui sont très différentes les unes des autres. Un second point qui est important quand on parle de l'industrie du vêtement, c'est d'être conscient du nombre de gens qui vivent de ce secteur, en particulier dans les pays en développement. Aujourd'hui, l'industrie textile et de l'habillement emploie environ 60 millions de travailleurs à travers le monde et en moyenne, 75% de ces travailleurs sont des femmes. Dans certains pays, le secteur de la confection est le principal employeur dans l'industrie et un pilier de l'économie. Par exemple, le vêtement représente environ 80% des exportations totales du Bangladesh et même plus en Haïti. Et donc, c'est vraiment important de garder à l'esprit que c'est une industrie qui est vitale pour des économies entières et par conséquent pour des millions de travailleurs et leurs familles.
Tu l'as dit, le vêtement passe par tout un cycle et au départ de ce long périple, on trouve bien sûr les matières premières. Tu en as parlé, Diane. Quelles sont les problématiques rencontrées à ce stade-là de la production ?
Alors, au niveau des matières premières, comme Diane l'a mentionné, on peut déjà distinguer entre les matières naturelles, donc le coton, la laine, le lin, la viscose, etc., et les matières synthétiques, le polyester, le nylon, l'acrylique, qui sont issues du pétrole. Et donc l'impact environnemental va varier selon les matières. Donc parmi les matières naturelles, la culture du coton est de loin la plus intensive en eau et en pesticides. Pour juste vous donner une ordre d'idée, il faut environ 3000 litres d'eau pour produire un t-shirt et ensuite 10 000 à 20 000 litres d'eau pour produire un jean. Et pareil, en termes de produits chimiques, on estime qu'au niveau mondial, un sixième des pesticides environ est employé rien que pour la culture du coton. Et la majeure partie du coton est produite dans les pays en développement, où l'utilisation massive et peu régulée des pesticides a bien sûr un impact important sur la santé des cultivateurs. Et également des populations qui vont consommer l'eau polluée par ces pesticides. Heureusement, alors il y a d'autres fibres naturelles qui ont un impact moins important, Par exemple, le lin ou le chanvre, ce sont des fibres qui vont nécessiter moins d'eau et moins de traitements chimiques pour être produites. Ensuite, on va avoir les fibres textiles qui vont être issues de la pulpe de bois qui va être transformée en cellulose et on va pouvoir fabriquer des fibres textiles comme le lyocell et le tencel de façon plus soutenable et plus respectueuse de l'environnement. Et dans ce cadre-là, IFC a par exemple récemment financé la construction d'une usine de pulpe de bois au Brésil. Et c'est un projet qui inclut la plantation de 70 000 hectares d'arbres d'eucalyptus sur un cycle de 7 ans, et en gros, qui va permettre de compenser les émissions de carbone générées par le prélèvement du bois pour être ensuite transformé en pulpe de bois, soit en fait un impact net négatif sur les émissions de carbone. En d'autres termes, on va séquestrer plus de carbone qu'en émettre. Donc c'est un exemple assez concret de ce qu'on peut faire pour limiter l'impact environnemental dans ce genre d'industrie. Et finalement, en ce qui concerne les matières synthétiques, donc comme je l'ai dit, le polyester, l'acrylique, etc., elles sont donc issues du pétrole et dépendent donc de l'extraction d'énergie fossile qui pose en fait les mêmes problèmes environnementaux, grosso modo, que le plastique. C'est-à-dire qu'elles sont non biodégradables, difficilement recyclables, et leur processus de fabrication est très polluant. On peut notamment parler de la pollution des océans issus de ces matières-là. Il faut savoir qu'environ 35% des microplastiques présents dans les océans proviennent des fibres textiles synthétiques qui, en fait, à chaque lavage, vont libérer des microplastiques qui finissent donc dans les océans.
Et ensuite, une fois que cette étape est passée, on a bien sûr la transformation de ces matières premières dans les usines. On a aussi l'assemblage. C'est un autre niveau, évidemment, qui pose beaucoup de questions. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles ?
Oui, alors, comme je l'ai mentionné avant, donc là, c'est plutôt les questions sociales qui se posent. Et donc, c'est pour ça que je vais répondre à cette question. Donc, l'une des questions principales, lorsqu'on parle de l'assemblage ou de la confection, c'est comment faire en sorte que ces emplois offre de bonnes conditions de travail afin que ces emplois soient une source de revenus, mais également qu'ils offrent des perspectives de développement personnel et professionnel et soient une voie vers des meilleures conditions de vie. Ça, c'est vraiment l'une des questions clés quand on parle vraiment de cette étape de confection qui emploie tellement, donc 60 millions de travailleurs à travers le monde, comme je l'ai dit précédemment. On le sait, ces emplois peuvent être un moteur de développement s'ils respectent les normes internationales et nationales du travail. Mais malheureusement, on le sait, cette industrie est tristement connue par des conditions de travail qui peuvent être dangereuses, des salaires qui souvent ne permettent pas aux familles de vivre convenablement, des tâches difficiles et répétitives sans perspective de progression. On a tous entendu parler de plusieurs événements tragiques, comme l'effondrement de l'usine de Rana Plaza au Bangladesh en 2013, qui avait causé la mort de plus de 1100 travailleurs. Et d'ailleurs, c'est cet événement parmi d'autres qui avait accéléré la prise de conscience des problèmes dans cette industrie. Ce qui se passe dans les usines sont influencés dans une grande partie par ce qui se passe là où on achète ces vêtements. Quand on pense aux dynamiques de la fast fashion, d'un côté, en fait, il y a les marques d'habits, qui cherchent à produire rapidement et à bas coût, car c'est un marché très compétitif avec peu de marge. Et d'autre part, on a les fournisseurs des marques, à savoir les usines, qui elles aussi doivent suivre ces dynamiques si elles souhaitent maintenir ces relations commerciales et elles aussi survivre. Donc c'est important de reconnaître que les pressions et les contraintes se trouvent tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Tout ce qui se passe au niveau des consommateurs, des envies, des habitudes de consommer rapidement, beaucoup et à des prix compétitifs, tout cela affecte les conditions de travail dans les usines. Après, une question qui se pose quand on considère le secteur de la confection dans les pays en développement, pour des économies qui sont peu diversifiées, comme le Bangladesh par exemple, je l'ai mentionné au préalable, c'est comment réussir à évoluer vers des activités de manufacture plus complexes que la confection, par exemple l'assemblage de produits électroniques. En fait, c'est en allant vers plus de complexité dans la production qu'on peut générer des emplois à plus grande valeur ajoutée, mieux rémunérés et qui demandent plus d'éducation, et bien entendu de meilleures perspectives économiques pour le pays en général.
Alors on a beaucoup mentionné l'aspect social du coup, est-ce que Léna, à ce niveau de la chaîne de valeur, il y a des questionnements écologiques qui se posent ?
Oui, absolument. En matière environnementale, donc à ce niveau de la chaîne de valeur où on est dans la fabrication du textile, on va trouver les processus de blanchiment et de teinture des fibres textiles. Il faut savoir que le blanchiment du coton nécessite l'utilisation de produits chimiques assez lourds comme le chlore. Les colorants qui sont utilisés pour la teinture des textiles contiennent beaucoup de métaux lourds comme le mercure, le chrome, des phtalates et d'autres produits polluants. Et donc ces colorants sont en fait synthétiques et donc non biodégradables. Inévitablement, une partie importante de ces polluants se retrouve jetée dans les cours d'eau. Il va donc ensuite aller polluer les océans, les écosystèmes et affecter la santé des personnes qui vont consommer l'eau ou qui vont consommer les poissons issus de ces cours d'eau. Il faut quand même savoir qu'environ 20% de la pollution des eaux au niveau mondial vient des teintures textiles. Donc c'est un problème écologique important.
Déshabillez-vous. Radio Campus Paris.
Alors Diane, du coup, on le disait, tu travailles pour Better Work, qui est un programme de l'IFC, la Société Financière Internationale, et de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. Est-ce que tu peux nous présenter le programme dans lequel tu travailles et justement les actions qui y sont menées ?
Oui, alors volontiers. Donc c'est un partenariat vraiment unique entre ces deux organisations internationales qui existent depuis 2007. Et qui a pour objectif d'améliorer les conditions de travail et promouvoir la compétitivité dans les chaînes d'approvisionnement mondiales du textile. Aujourd'hui, le programme est opérationnel dans 9 pays. Donc en Asie, il y a le Bangladesh, le Cambodge, l'Indonésie, le Vietnam. Au Moyen-Orient et Afrique, il y a la Jordanie, l'Éthiopie et l'Égypte. Et puis après, en Amérique centrale, Haïti et Nicaragua. Donc le programme Better Work travaille avec plus de 40 marques d'habits internationales. Donc beaucoup d'entre elles sont connues et beaucoup d'entre nous aussi les portent de façon régulière. Et le programme est actif dans environ 1700 usines et touche ainsi plus de 2,5 millions de travailleurs dans les 9 pays en développement dont j'ai parlé précédemment. Après, plus concrètement, en fait, Better Work vise à améliorer la conformité des usines d'habits avec les normes internationales du travail, comme celles qui sont établies par l'OIT et les lois nationales. Donc juste pour vous donner une idée, ça touche par exemple à l'interdiction du travail forcé et du travail des enfants, l'interdiction à la discrimination à l'emploi et en termes salarial, mais aussi au sujet de la liberté syndicale et les négociations collectives. Et puis quand on parle du droit national, le droit du travail national, ça touche par exemple les contrats, les salaires, le temps de travail, la santé et la sécurité au travail. Donc le programme travaille avec les usines pour qu'elles puissent améliorer leur conformité avec ces différentes lois. L'approche consiste véritablement à accompagner et renforcer les capacités des usines, des marques d'habits et des gouvernements à identifier quelles sont les causes fondamentales de la non-conformité. Et une fois que ces causes ont été identifiées, de travailler ensemble pour résoudre les problèmes et trouver des solutions qui vont être durables.
Et du coup, de façon concrète, ça ressemble à quoi ? Avec quels acteurs vous travaillez ? Et c'est quoi l'approche en fait de Better Work ?
Alors, le programme, en fait, a une approche holistique. Donc, par exemple, le premier acteur avec lequel on travaille, c'est les usines. Et donc là, le programme offre un ensemble complet de services conseils, d'évaluation, ça je l'ai mentionné, pour évaluer la conformité, mais aussi beaucoup de formation. Et les sujets qui sont couverts, c'est par exemple la santé, la sécurité au travail, les relations du travail, le développement des compétences des travailleurs, par exemple le leadership, la communication, la gestion des équipes, entre autres, mais aussi tout ce qui touche au harcèlement sexuel et à la promotion de la femme. Aussi, Better Work organise diverses rencontres pour partager des connaissances donc entre les marques d'habits. Et aussi, le programme offre des formations pour les équipes des marques d'habits. Par exemple, les équipes qui sont en charge des achats, pour aider les marques justement à améliorer leurs pratiques d'achat et la communication avec les usines. Le dernier acteur avec qui Better Work travaille, ce sont les gouvernements. Et là, l'idée, c'est d'aider les gouvernements à renforcer les institutions, à améliorer les lois et les politiques publiques dans le domaine du travail.
Et du coup, d'un point de vue écologique, Léna, ouais. Je me tourne vers toi. Du coup, il y a des mesures qui ont déjà été prises ou qui sont en train d'être prises par des institutions, par les marques, pour rendre du coup cette industrie plus éco-friendly. Il y a plusieurs niveaux, je pense par exemple aux matières premières, on en a parlé, la transformation de ces matières de même, et puis l'innovation, enfin il y a plein de choses. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ?
Oui, bien sûr. Donc en effet, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à différents niveaux. Déjà, en ce qui concerne les matières premières, donc comme je l'avais expliqué tout à l'heure, certaines matières vont être plus éco-friendly que d'autres. Donc il va s'agir de soutenir la production des matières les plus éco-friendly, donc qui vont nécessiter le moins d'eau et le moins de pesticides, comme par exemple le lin, le chanvre, la cellulose de bois pour ensuite faire le lyocell et le tencel. Et si on produit du coton, essayez plutôt de s'orienter vers la production biologique, donc avec moins de pesticides, associés à des systèmes d'irrigation innovants qui vont permettre d'économiser de l'eau. Et par rapport à ça, nous, à IFC, on a financé l'année dernière des systèmes en fait, d'irrigation goutte à goutte dans des projets de culture dans plusieurs pays, dont la Turquie, la Chine, qui en fait permettent l'optimisation de l'apport en eau des cultures en minimisant la consommation d'eau. Donc c'est typiquement le genre de choses qui peut permettre de produire ces cultures de façon beaucoup plus raisonnée. Ensuite, dans le processus de fabrication, on peut essayer d'engager des rénovations des bâtiments, en fait, des usines, afin d'améliorer l'efficacité énergétique. Et ça, c'est une démarche qui va aussi souvent nécessiter l'appui des marques qui, avec leur pouvoir de négociation, vont pouvoir exiger un certain niveau d'économie d'énergie en fait, de la part de leurs fournisseurs. Donc on peut travailler souvent en partenariat avec les marques pour ce genre de démarche. Ensuite, au niveau des produits chimiques, dans les processus de transformation des vêtements, de teinture, comme j'expliquais tout à l'heure, à IFC, on a développé un programme qui s'appelle PACT, pour Partnership for Clean Act Textile, qui en français est partenariat pour des textiles plus propres. Et donc ça, c'est un programme en fait pour le Bangladesh qui vise à fournir une assistance technique aux usines de production en association avec le gouvernement pour les aider à réduire l'usage des produits chimiques. Donc c'est une des initiatives qui peut être prise à ce niveau-là. On va aussi essayer de soutenir le développement de nouvelles technologies pour, par exemple, pour généraliser le recyclage, parce qu'il faut savoir qu'en matière textile, le recyclage est loin d'être évident. Il y a quand même moins de 1% des fibres textiles qui sont recyclées, donc rien quasiment, parce que c'est un processus qui est complexe, notamment du fait que les vêtements sont souvent faits de plusieurs matières mélangées et teints en plusieurs couleurs. Donc il y a un vrai défi technologique à ce niveau-là. Plus les collections vont être courtes et les vêtements à bas prix, plus en fait les gens vont en consommer et les porter moins longtemps. Et donc cette durée de vie plus courte va faire que tous les impacts négatifs dont on a parlé avant vont augmenter, puisque plus on produit, plus on a tous ces impacts. Et la génération de déchets va aussi être importante. Donc là, il s'agit plutôt d'essayer de faire moins de collections et des vêtements plus durables et à prix juste. Donc c'est quelque chose aussi qui peut être engagé. Et finalement, les gouvernements ont aussi un rôle à jouer dans tout ça pour encourager les innovations et demander plus de transparence et d'engagement aux marques et à tous les acteurs de la chaîne de valeur.
Alors là, on évoque des choses qui sont en cours. Avant, on a évoqué pas mal de problèmes et de choses négatives liées à cette industrie. Il y a aussi des bonnes nouvelles, heureusement. Est-ce que vous pouvez être les messagères de ces bonnes nouvelles pour nos auditeurs ?
Oui, alors très volontiers, Claire, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent et de plus en plus. Il y a beaucoup d'avancements positifs et de la part de plusieurs acteurs. Vu que j'ai beaucoup parlé des conditions de travail et de Better Work, une chose qu'il faut savoir, c'est que une amélioration des conditions de travail dans les usines d'habits, lorsque des solutions adéquates sont mises en place, est possible, et c'est le cas. Donc, par exemple, il y a une étude d'impact indépendante qui a démontré que Better Work a permis d'améliorer considérablement les conditions de travail dans des centaines d'usines, dans les pays dans lesquels le programme est actif. Donc là, juste pour vous donner quelques exemples concrets de ces améliorations. Donc par exemple, grâce à Better Work, les heures supplémentaires excessives, les salaires insuffisants sont de moins en moins fréquents dans les usines là où le programme travaille. Et puis aussi, les usines diminuent le recours à des pratiques abusives telles que les menaces de renvoi, le harcèlement et les violences verbales. Un point dont je souhaite parler, parce que c'est un sujet que j'affectionne particulièrement, c'est tout ce qui touche à la promotion de la femme. Et donc là, il a été démontré que Better Work contribue à combler l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Un point qui est très positif, c'est la progression de la femme dans les usines, dans des rôles avec plus de responsabilités. Je vous ai parlé de ce qu'on appelle les opérateurs ou les opératrices de machines à coudre. C'est donc toutes ces hommes et ces femmes qui travaillent sur les lignes d'assemblage et qui cousent les vêtements ensemble. Donc là, en fait, dans l'industrie du vêtement, ces rôles sont dans la grande majorité tenus par des femmes. Et puis souvent, quand on passe au niveau supérieur, qui est la supervision des lignes d'assemblage, dans certains pays, là, souvent, c'est dominé par des hommes. Donc juste pour vous donner une idée de ces pourcentages, au Bangladesh, donc ces postes sur les machines à coudre, 80% de ces postes sont tenus par des femmes. Et lorsqu'on passe à la supervision, 95% de ces postes sont tenus par des hommes. Et pour combler ce déséquilibre, IFC et Better Work ont développé des formations qui permettent aux femmes d'acquérir les compétences nécessaires pour elles aussi pouvoir superviser des équipes. Et par exemple, là, il y a eu des résultats vraiment excellents. Donc, par exemple, il y a un projet de l'IFC qui a été fait au Bangladesh et grâce auquel le pourcentage des femmes dans les rôles de supervision est passé de 5 à 12% en moyenne. En plus, ce qu'on peut mentionner, c'est qu'il a été démontré que les lignes d'assemblage qui sont supervisées par des femmes qui ont reçu ces formations de l'IFC et de Better Work ont un meilleur rendement, ce qui contribue directement à la productivité des usines.
Oui, et de mon côté, j'ajouterais qu'on voit aussi des avancées de la part des marques pour plus d'économie circulaire. Il y a clairement une prise de conscience qui se fait et un engagement plus poussé des marques. Par exemple, certaines marques vont réutiliser des chutes de tissus pour faire de nouveaux vêtements ou utiliser des matériaux biodégradables. Par exemple, pour fabriquer des semelles de chaussures donc à partir de canne à sucre. Donc, ce sont juste des exemples pour favoriser l'économie circulaire. On voit aussi que des méthodes de teinture naturelle et plus résistantes se développent. Par exemple, la technique de l'impression digitale qui ne nécessite pas d'eau et qui utilise des encres biodégradables. Ou encore le blanchiment écologique ou même le tannage végétal pour le cuir. Et en parlant du cuir, on voit aussi le développement de cuir fait à partir de matières végétales, comme les champignons ou les peaux de certains fruits, comme l'ananas ou la pomme. Donc on voit bien que voilà, beaucoup d'initiatives se développent, et c'est peut-être les méthodes les moins conventionnelles qui seront les solutions les plus porteuses à l'avenir, à voir.
Et finalement, pour clore cette émission, du côté consommateur, on observe une évolution des démarches finalement, une évolution de nouvelles habitudes de consommation qui, elles aussi, amènent des changements positifs dans l'industrie.
Oui, quand on pense à acheter des habits neufs aujourd'hui, c'est vrai qu'on observe aussi là des changements de consommation. Donc on sait que les milléniaux, cette génération, se focalisent sur la qualité, la durabilité des produits et veulent beaucoup de transparence. Et donc deux exemples de comportements qu'on observe. Donc maintenant on sait qu'il y a beaucoup d'informations disponibles sur Internet, qu'elles soient données par les marques d'habits directement, diverses initiatives, des ONG, des instituts de recherche, et aussi des applications et des outils de comparaison. Et donc des gens de plus en plus utilisent ces différentes sources d'informations pour en savoir plus sur les matériaux et les pratiques de production des marques et collecter autant d'informations que possible avant de faire un achat. Pour faire un achat vraiment avec le plus de connaissances possible sur la façon dont les choses ont été produites. Et puis aussi peut-être un deuxième comportement qu'on peut mentionner, ce sont des consommateurs qui de plus en plus souhaitent soutenir les entrepreneurs et les petites entreprises de façon plus directe. On observe un appétit croissant acheter auprès des plus petites marques, des créateurs, des artisans, des entreprises sociales qui se trouvent à travers le monde et mettent en valeur des savoir-faire locaux. Et donc ceci est maintenant possible en ligne, directement sur les sites web de ces entreprises, artisans et autres, ou alors via des plateformes d'e-commerce.
Oui, absolument. On observe des nouvelles habitudes de consommation qui se développent, comme acheter des vêtements d'occasion, ou bien acheter moins souvent et privilégier des vêtements plus durables, en matière, comme on l'a dit, un peu plus éco-friendly. On voit aussi des nouveaux business models qui se développent, comme le principe de la location, tout ce qui est autour de la location de vêtements. Et puis les consommateurs peuvent aussi regarder les labels, par exemple pour les matières biologiques, telles que Oecotex ou GOTS. Et à ce niveau-là, j'inviterai les auditeurs à faire leurs propres recherches sur les labels, leur sérieux, pour pouvoir faire des choix de consommation plus éclairés et qui correspondent à leurs valeurs.
Autant de bonnes nouvelles du coup qui nous laissent penser que l'industrie est sur une meilleure voie. On peut l'espérer en tout cas. Je voulais vous remercier toutes les deux d'être venues me parler et répondre à mes questions pour Déshabillez-vous. C'était un plaisir.
Bah, c'était avec plaisir. Merci beaucoup à toi de nous avoir invités.
Oui, merci beaucoup Claire.
Quant à nous, chers auditeurs, chères auditrices, merci d'être restés avec nous. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Déshabillez-vous, une émission consacrée aux vêtements, tout ce qu'il dit de nous, tout ce qu'il peut, tout ce qu'il ne peut pas. C'est un vendredi par mois à 14h sur les ondes de Radio Campus Paris 93.9 FM. Et retrouvez évidemment la page de l'émission sur le site radiocampusparis.org.